9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, je vous souhaite un très bon week-end et on va le commencer avec Jean-Pierre Bacri qui vient de nous quitter par surprise à l'âge de 69 ans. On va le retrouver il y a 10 ans lors d'un entretien qu'il m'avait accordé sur Europe 1. C'était, vous allez voir, du Bacri tout craché. Mais d'abord, je reçois Valérie Niquet, une spécialiste de la Chine, car 2020 a été l'année de la Chine, mais on a tellement eu les yeux braqués sur les États-Unis ces derniers mois qu'on en a presque oublié la Chine, qui, elle, ne nous oublie pas. Nous avons tous les yeux braqués sur Joe Biden, sur Washington, mais 2020 aura été l'année de la Chine, et pas seulement à cause de la pandémie. Alors que les puissances économiques occidentales sont en récession, la Chine a connu en 2020 une croissance de 2,3%. Le FMI et la Banque mondiale tablent sur une croissance de 7,9% en 2021. Alors Valérie Niquet, bonjour. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes l'auteur de la puissance chinoise en sans question chez Talendier. Comment s'explique une reprise aussi rapide ?
Alors d'abord, effectivement, la Chine, en mettant le pays sous cloche, a pu bloquer la propagation de l'épidémie à la fin du printemps et au début de l'été. Et on voit que la croissance a repris à partir du troisième et plus encore au quatrième trimestre. Donc la production industrielle, notamment, est repartie très rapidement. Et ce qui a tiré la croissance cette année en Chine à la fin de l'année, c'est des investissements considérables de la part des autorités chinoises qui ont lâché le crédit, entre guillemets, alors qu'elles étaient plutôt sur une tendance de reprise en main l'année précédente, donc pour aider l'économie à repartir. Et puis surtout, cette croissance chinoise a été tirée essentiellement par les exportations qui ont fait des bonds extraordinaires, notamment les exportations de matériel médical et de tout ce qui est produit lié au télétravail, les ordinateurs, ce genre de produits qui viennent de Chine et qui ont véritablement tiré la production et la croissance chinoise vers les exportations. En revanche, la consommation intérieure de la Chine, pour le moment, n'a pas véritablement repris. Et on sent bien qu'en interne, en Chine même, il y a encore des problèmes qui ne sont pas réglés. Mais ce qui comptait pour Pékin, c'était évidemment de terminer, entre guillemets, en beauté et de montrer que le système fonctionnait mieux que celui des démocraties occidentales et que la Chine était capable, un, de bloquer l'épidémie. Les cas récents auxquels on assiste au nord de la Chine, notamment, n'était pas encore vraiment d'actualité et on va voir comment ça va évoluer. Et surtout, une croissance effectivement positive à la fin de l'année en dépit de l'effondrement initial.
Et un excédent commercial, hein, vous l'avez dit, qui a atteint 535 milliards de dollars en augmentation de 27%, dont 317 milliards avec les États-Unis. Ça fait 7% de plus. La guerre commerciale et les taxes imposées par Donald Trump n'ont pas eu l'effet escompté ?
N'ont pas eu l'effet escompté parce que d'abord la Chine a beaucoup moins importé, ce qui est bien le signe que l'économie chinoise elle-même en termes de consommation notamment n'est pas repartie aussi rapidement que les exportations, et puis parce que le monde avait besoin, c'est toute la question de la délocalisation des produits chinois, notamment de ces fameux produits médicaux qui encore une fois ont fait un bond supérieur à 40%, tout ce qui est masques et autres matériels médicaux fabriqués en Chine et exportés vers les États-Unis et vers le reste du monde, vers l'Europe notamment, où là aussi le déficit européen s'est creusé.
En novembre, la Chine a signé avec 14 pays d'Asie et du Pacifique le plus vaste accord de libre-échange du monde, puisqu'il concerne 2 milliards d'habitants, un tiers du PIB mondial. Il y a les 10 pays de l'ASEAN, Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos, Brunei, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Voir s'organiser une communauté économique comme en Europe ?
Alors, ça va pas changer grand-chose, en fait. Et ce qui comptait beaucoup pour Pékin, comme d'ailleurs dans le cas de l'accord d'investissement qui a été annoncé à la fin de l'année avec l'Union européenne, la Chine voulait montrer qu'elle avait des alliés, justement, face aux États-Unis de Donald Trump et même face aux États-Unis, d'ailleurs, de Joe Biden. Donc, c'était très important pour Pékin de s'engager dans ces accords pour montrer que, finalement, il y avait des grandes communautés qui s'organisaient autour de la Chine. En fait, les choses sont un peu plus compliquées. Et notamment, dans le cas de l'Asie, c'est plutôt la formalisation négociations d'accords de libre-échange qui existaient déjà et qui d'ailleurs sont très peu respectés, puisque quelques jours à peine après la signature de cet accord, ce vaste accord d'échange à l'échelle de l'Asie, mais qui implique également l'Australie, eh bien l'Australie a été soumise à des embargos officieux de la part de la Chine qui portaient sur toute une série de produits, dont le vin notamment, parce que l'Australie s'était permis de critiquer la gestion par la Chine de la crise du Covid-19. Donc en fait, ces accords, c'est surtout, il y a beaucoup une question d'affichage qui était essentielle pour la Chine, à la fois en Asie et en Europe, mais sur le fond, comme dans le cas européen aussi, ça ne change pas tant de choses que ça, et ça ne change surtout pas les pratiques chinoises en matière de commerce extérieur.
Et les entreprises européennes et chinoises ne sont toujours pas à égalité ?
Effectivement, on a toujours des difficultés à investir, à exporter vers la Chine. Il y a toute une série de mesures, bien que la Chine fasse partie de l'OMC, de soutien aux entreprises chinoises, de transfert obligatoire de technologies, de fermeture des marchés, qui rendent la situation pour les entreprises occidentales très difficile, même si d'autres, notamment les entreprises allemandes, qui sont très présentes en Chine, y trouvent plus d'intérêt que d'autres pays. Là encore, cet accord signé avec l'Union européenne est présenté comme révolutionnaire par la Chine, mais c'était essentiellement une volonté d'affichage d'alliance avec l'Union européenne d'un côté, l'Asie de l'autre. Sur le fond, il y a très peu de contenu qui changera la donne d'une manière fondamentale pour les entreprises occidentales notamment.
Très bien, on fait une pause, on se retrouve juste après Valérie Niquet.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Valérie Niquet, la responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Valérie Niquet, vous qui êtes une grande spécialiste de la Chine, est-ce que la Chine, c'est un pays riche où il y a beaucoup de pauvres ou c'est un pays pauvre où il y a beaucoup de riches ? Je paraphrase là Pascal Lamy.
Effectivement, c'est la grande question. Globalement, on dit que la Chine va plus rapidement encore que prévu, peut-être en 2028, dépasser dans sa globalité les États-Unis pour devenir la première puissance économique mondiale. Mais la Chine reste un pays, effectivement, avec de très, très grandes inégalités. Et même si le président Xi Jinping a annoncé à la fin de l'année que la Chine avait réussi à éradiquer la très grande pauvreté, c'est un niveau de revenu qui se situe autour de 4 000 $ sur l'année, ce qui est quand même très peu et qui ne permet pas de vivre en Chine. Mais le premier ministre chinois, qui s'appelle Li Keqiang, avait lui déclaré quelques mois auparavant qu'il ne fallait pas oublier qu'en Chine, il y avait à peu près 600 millions de personnes, ce qui est considérable, qui vivaient avec moins de 100 € par mois. Donc la Chine est un pays où il y a à la fois beaucoup de milliardaires, il y en a plus de 300, beaucoup de millionnaires, des provinces qui sont relativement riches, enfin qui ont un niveau des pays les moins développés de l'Union européenne, qui sont situés essentiellement sur la côte, mais à l'intérieur du pays et même entre provinces, il y a encore d'énormes, non pas des poches, mais des taches de pauvreté qui ne sont pas éradiquées et qui s'expliquent aussi par un système social très peu développé qui fait que même les classes moyennes, celles qui pourraient consommer, le font lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils sont soutenus par leurs parents. C'est le phénomène de l'enfant unique qui reçoit tout. Mais ensuite, il faut épargner massivement en Chine pour tous les accidents de l'existence et même pour la retraite, puisque le système social, même s'il s'est un peu développé, est beaucoup moins au point que ce qui existe dans nos propres sociétés.
Alors, on a vu que la Chine rayonne aujourd'hui sur le plan économique dans le monde entier, mais est-ce qu'on peut parler d'impérialisme chinois ? Les États-Unis avec le plan Marshall ou le marché unique européen avec les pays de l'Est voulaient convertir leurs partenaires à un modèle, à une idéologie. Est-ce que c'est le cas de la Chine avec les routes de la soie, par exemple ?
Alors effectivement, la Chine développe ce grand projet de route de la soie, même s'il a un peu ralenti depuis le moment où il avait été lancé. Mais finalement, ces routes de la soie s'étendent essentiellement en direction des États, si je peux dire, d'abord qui ont vraiment besoin des capitaux chinois parce que leur système politique, le degré de corruption, le manque de développement de leur économie fait qu'ils reçoivent relativement peu d'aide des grandes organisations internationales. Donc la Chine, entre guillemets, est un dernier recours. Et puis surtout, ce sont souvent des États qui partagent une même idéologie de volonté de contrôle et d'absence de démocratie, d'absence de transparence avec la Chine. Et on le voit dans le cas notamment en Europe avec des pays comme la Hongrie qui sont très attirés par la Chine et auprès desquels Pékin est extrêmement actif. Mais ce ne sont pas effectivement ni les pays évidemment les plus développés, ni surtout les pays qui ont accepté d'entamer des réformes qui permettraient d'aboutir à un gouvernement, à une gouvernance de meilleure qualité. Donc la Chine est très active dans ces pays-là et certains considèrent que cette aide chinoise finalement empêche des évolutions qui seraient nécessaires pour un développement harmonieux, comme on dit en Chine, à plus long terme.
Valérie Niquet, l'alliance du capitalisme et de la démocratie a été longtemps extrêmement profitable. Le capitalisme avait besoin de la démocratie. C'est ce qui a rendu riches les pays anglo-saxons, la France, l'Europe de l'Ouest. C'est ce qui leur a permis de battre l'Allemagne nazie, puis le communisme soviétique pendant la guerre froide. Est-ce que c'est encore vrai? En voyant la réussite économique de la Chine, qui est pourtant un pays communiste, hein, un vrai pays communiste, certains commencent à se demander si la dictature n'est pas devenue le meilleur allié du capitalisme.
Ce qui est vrai, c'est que la Chine, avec son absence de quasi totale de règles, notamment quand on pense aux règles environnementales qui sont très mal appliquées, de droit du travail qui est inexistant, eh bien, a été une sorte d'eldorado, il faut bien le dire aussi, pour beaucoup d'entreprises qui délocalisaient vers la Chine parce que les choses étaient, entre guillemets, plus faciles. Parce que le Parti communiste ayant toute autorité, on peut décider les choses très rapidement quand on a les bons réseaux et qu'on est en accord avec les décisions qui sont prises. Donc il y a une sorte de dynamisme qui a pu se développer, mais on voit aussi les limites. On l'a vu avec l'affaire Alibaba, dont le président, lorsqu'il a commencé à un peu s'opposer à la direction de Pékin, il est pourtant membre du Parti communiste et il a été très soutenu par Pékin pour se développer, eh bien il a disparu pendant 3 mois et apparu très, très brièvement il y a quelques jours. Mais il n'y a pas du tout d'assurance ou de sûreté pour ces grands capitalistes chinois. Donc globalement, la Chine a des atouts qu'elle peut mettre en avant, encore une fois, une capacité de réaction extrêmement rapide, essentiellement dans certains cas, et d'investissement, sans beaucoup de contrôle sur la rentabilité, finalement, lorsqu'il y a l'envie politique de s'installer quelque part. Mais sur le long terme, on peut quand même s'interroger. On voit que la Chine fait face à des difficultés également, encore une fois, de très grandes inégalités, de prise en charge sociale qui ne sont pas encore suffisamment prises en compte et qui freinent, en quelque sorte, la consommation. Et à long terme, on peut quand même s'interroger sur la capacité de survie de ce type de régime qui refuse pour le moment toute réforme fondamentale, mais il n'est pas certain que ça puisse durer éternellement, même si ça fonctionne actuellement.
Merci Valérie Niquet. Je rappelle que vous êtes la responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et que vous êtes l'auteur de « La puissance chinoise en sans question » qui est paru chez Talendier. Vous en avez fait un autre depuis sur la puissance japonaise, hein, toujours chez le même éditeur. On se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Bacri, bien vivant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Il y a 10 ans, donc, j'avais débuté mon entretien avec Jean-Pierre Bacri par la façon dont les journalistes le voyaient. Ça l'avait rendu un peu bougon.
Généralement, il vous voit bougon, bourru, casse-couille, misanthrope, neurasthénique, mauvais coucheur, dépressif ou désabusé. Vous, vous voyez comment comme acteur?
Ça commence.
Vous avez remarqué que j'ai eu les mots que j'ai lus. Hein.
Non, mais c'est pour
j'ai
ça,
lu
c'est pour
les
ça.
Mots. Hein.
Oui, mais finalement, tout en les lisant, vous ne faites que le répéter.
Je suis tout à fait d'accord. C'est pour savoir comment vous voyez au
voilà,
fond.
Voilà. Et donc, comme ça, c'est un truc qu'on me sert depuis toujours. Là, pour le coup, je suis toujours emmerdé parce que c'est du commentaire. Je peux pas me. Moi, je suis habitué à moi, donc je me fais pas peur. Ouais. Et je me fais pas. Enfin, je me casse pas les couilles et je m'aime bien. Donc, je peux pas. Je me vois pas de l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Si les gens ont cette impression, c'est leur droit. Moi, je vis à ma façon, je parle, je communique et je joue comme je suis dans la vie. Donc, avec ma façon de comprendre le monde, la façon de le restituer, mes conceptions, mes valeurs d'acteur ou d'homme. C'est vrai que le sourire, c'est quelque chose que je trouve assez... de la bimbloterie, quoi, je trouve.
Galvaudé, vous voulez dire?
Oui, c'est ça, c'est du toc, c'est quelque chose que tout le monde se file à longueur de temps, qui ne veut absolument rien dire, qui est un truc de verpé, donc je, Oui, effectivement, je souris quand on me fait sourire ou je souris spontanément. J'ai des convictions personnelles qui font que j'ai envie de vivre d'une certaine façon et pas d'une autre.
Je vous ai vu heureux dans un film, c'était dans Les Sentiments de Naomi Lovski. Est-ce que ça veut dire que tous les autres personnages que vous avez incarnés n'avaient pas de raison d'être heureux ?
Ben, ça veut dire, je vous dis, c'est peut-être ma façon de concevoir le monde ou de voir la... Quand un acteur joue, il restitue un peu ce qu'il est, quoi. Donc c'est peut-être cette façon que j'ai qui... Moi, au risque de faire rire la France entière, pour peu qu'elle nous écoute, je suis très heureux. Mais avec ma conception à moi, quoi.
Jean-Pierre Bacri, comment vous étiez avant d'être acteur ? Quel souvenir gardez-vous de vous ?
Avant d'être acteur ?
Ouais.
Avant d'être acteur, j'étais canois.
Ça veut dire ?
Ça veut dire que je suis venu à Paris et que... Avant et après Paris, je pense que c'est deux types différents. Enfin, c'est le même contenant, mais c'est deux types différents.
Pourquoi ? C'est Paris qui vous a révolutionné tout d'un coup en montant à Paris ?
Oui, Paris m'a révolutionné, absolument.
Parce que
j'étais un provincial tout à fait fasciné par Paris. Je me disais, non pas à nous deux, parce que j'étais pas comme ça, mais j'étais impressionné par le... Quand on vient de Cannes, on peut être qu'impressionné par Paris.
Avant d'être à Cannes, vous êtes né en Algérie, à Castiglione, je crois. Quel type d'enfance avez-vous eu ? Avez-vous eu une enfance heureuse, là aussi ?
Ben, au contraire de maintenant, enfin, au contraire en tant qu'adulte, je me suis beaucoup emmerdé comme enfant. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs d'ennui et de...
Ça donne envie de lire, souvent, quand on s'ennuie. Ça a été le cas pour vous ?
Non, toute ma période liseuse est à Paris.
Enfant, vous vous ennuyez, vous ne profitez pas...
Non, je m'ennuie, c'est-à-dire que je joue comme les autres et je fais des conneries et je descends sur des roulements à billes, des pentes, mais j'ai surtout un souvenir d'ennui et de contraintes, c'est-à-dire obligé de manger maintenant, obligé de se lever maintenant à l'aube quand il fait nuit, obligé de se coucher maintenant, de ne pas regarder ça, de regarder plutôt ci.
D'aller à l'école, c'était un ennui aussi.
De faire des dîners de famille, etc. Enfin, moi, je me suis énormément, énormément ennuyé. Je me vois en train de boire des cafés dans un milkbar quand j'avais 15-16 ans, attendant la liberté, quoi.
Vous vous êtes ennuyé, visiblement, et à l'école et au lycée. Pourtant, je crois savoir que vous vouliez devenir professeur de français. Ça vous avait pas vacciné non plus contre l'étude ?
Non, ça m'avait pas vacciné parce que j'ai eu un prof de français. Ça arrive à beaucoup de personnes. Enfin, c'est vrai que ça marque, quoi. J'ai eu un prof de français en première, en terminale, qui m'a épaté, qui s'appelait Monsieur Galli, et qui était un prof très jeune, un jeune agrégé, comme ça, il devait avoir peut-être une trentaine d'années. Il était passionnant et il donnait envie de lire et de comprendre.
Pourquoi finalement ça ne s'est pas fait ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu professeur de français ?
Parce que j'ai fait une fac de lettres et puis ensuite j'ai fait un an de fac de lettres un peu tronqué parce que je joue au poker avec des Corses. Et donc j'ai surtout appris le poker là-bas.
Vous jouiez bien au poker ?
Je joue un poker qui est inusité maintenant, c'est un poker, le poker fermé quoi.
Le poker classique avec 5 cartes fermées.
Ouais. Je l'aime beaucoup celui-là.
Vous n'y jouez plus ?
Non, je joue plus parce que j'ai perdu pas mal et puis... Et puis justement après cette période de fac et de dette, je suis devenu un autre.
Vous êtes devenu un autre. À un moment, vous avez travaillé dans une banque, je crois, Jean-Pierre Bacri. Ouais, vous étiez employé de banque.
Oui.
Comment étiez-vous à ce moment-là en tant qu'employé de banque ? Vous aimiez votre métier ou vous vous ennuyiez encore une
tout.
Fois ?
Non, pas du tout, pas du tout. J'aimais pas du tout. Mais c'est bien parce que ça m'a servi à avoir des vraies certitudes pour peu qu'on puisse en avoir. Mais là, c'est le cas. Quand tu travailles dans une banque, tu te lèves tôt, tu te rases tous les jours de près. Et quand on a une barbe de brun, c'est très pénible de se raser tous les jours. Tu te costardes et tu te cravates. Et tu souris. Tout le temps. Et je me suis dit, voilà, du matin jusqu'au soir, ce que je ne ferai plus.
C'est vrai que vous n'êtes pas rasé, là je vous vois, vous n'avez pas de cravate.
Et je me lève tard.
Dans les articles que j'ai pu lire, on vous prête beaucoup de petits métiers à cette époque. Vous auriez travaillé dans la pub, ça m'a étonné. Vous auriez été serveur, balayeur, ouvreur à l'Olympia, tous les petits métiers qu'on fait pour gagner sa vie.
J'ai balayé dans les bureaux pendant un petit mois, hein. pas duré beaucoup. Mais... Et je balayais dans les bureaux avec des équipes de balayeurs. On faisait de 5h du matin, je crois, à 7h, on balayait. En nettoyer.
Vous vous êtes senti humilié d'avoir à faire ce genre de travail ?
Non, pas du tout. Je ne me suis jamais senti humilié en faisant un boulot. Je faisais parce qu'il me fallait de l'argent. J'avais trouvé que ça, parce mais il m'en fallait vraiment. Il fallait payer un loyer, donc j'allais au charbon.
Et alors, avez-vous écrit des textes publicitaires ?
Oui, quand on est arrivé à Paris, je suis venu avec un pote, je ne serais jamais venu seul, donc on est venu à deux à Paris, et on s'était mis dans l'idée qu'on voulait faire de la pub, et donc on écrivait des slogans comme ça, qu'on essayait de vendre, enfin, c'était ridicule parce qu'on s'y prenait très mal, on pensait que c'était un truc comme ça, où on pouvait ramener une phrase ou deux et faire rire les gens. Donc on avait inventé surtout des slogans, quoi.
Mais pourquoi aviez-vous envie de faire de la publicité? C'est parce que c'était le métier à la mode à l'époque?
Non, c'était une façon, encore une fois, je vous dis, de gagner de l'argent. Moi, j'avais dans la tête des fantasmes sur le publicitaire, justement,
qui écrit,
puis qui travaille quand il veut, et qui réfléchit à des trucs drôles. Voilà.
Comment êtes-vous passé alors à l'actorat? Vous êtes retrouvé au cours Simon. Qu'est-ce qui a déclenché ça?
J'ai beaucoup raconté.
Ça m'ennuie. Résumez-le alors.
je draguais plus ou moins une fille qui ne pouvait pas le soir parce qu'elle allait au cours d'art dramatique. Et ça m'a complètement épaté que ça puisse encore exister, encore une surprise à Paris. Je crois que c'était fini, quoi, qu'on était acteurs d'une autre façon. Et donc... J'ai demandé si je pouvais venir, j'y suis allé, et quand j'ai découvert ce monde, j'ai eu un coup de foudre.
Bakri, la suite, c'est dans 2 minutes 30.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Une de vos caractéristiques en tant que comédien, Jean-Pierre Bacri, c'est le tempo. Vous avez un sens du tempo. Qui peut faire de vous d'ailleurs un acteur comique extraordinaire, parce que c'est d'abord ça la comédie, hein, c'est le tempo.
Absolument. La comédie, c'est le tempo, c'est le rythme.
Comment l'avez-vous acquis? Est-ce que c'est le même? Est-ce que vous l'avez travaillé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a évolué, ce tempo?
Je ne sais pas pourquoi. Il me semble. Cet ami dont je vous parlais, avec qui je suis venu à Paris, j'ai toujours fréquenté des gens drôles. Enfin, j'adore la drôlerie. Et j'ai toujours fréquenté des gens qui aiment l'humour, quoi. Ce qui fait que c'est une espèce de pratique au quotidien, dans des bagnoles et en s'emmerdant dans des boîtes de nuit. Donc c'est une pratique, quoi. Et les gens n'arrêtent pas de faire ça, surtout qu'à Cannes, on est très chambreur, très vanneur, etc. Donc au bout d'un moment, il vous vient un rythme, le temps qu'il faut avant de dire telle chose. C'est un goût, quoi.
Vous allez d'abord faire du théâtre, Jean-Pierre Bacri, puis le cinéma va arriver, on vous aperçoit dans le Toubib.
Vous dites souvent mon nom parce que c'est une émission de radio.
Exactement.
Où il est question de...
C'est pas seulement ça, mais c'est si les auditeurs prennent l'émission en cours.
Voilà, ça, après l'encours, on dit « Ah tiens, c'est mal. »
C'est Jean-Pierre Bacri. Parfois, vous avez pas l'impression, cette impression à la radio, quand vous l'écoutez, au bout de 20 minutes, vous savez toujours pas qui parle.
Oui, c'est ça, d'accord.
Donc, vous avez aidé... Enfin, je me souviens de vous dans le Toubib, avec Alain Delon.
Ah ouais,
tout petit rôle.
Un vrai truc intéressant.
Voilà. Mais d'abord, après, c'est là où on vous remarque, c'est dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadie.
Ouais.
Vous allez faire ensuite Le Grand Carnaval, d'ailleurs.
Après, je vais faire Le Grand Arrêt sur les films de Pieds Noirs.
Oui, pourquoi?
Parce que je sentais que je rentrais dans...
C'était communautariste.
Voilà, exactement. Et s'il y a un truc ou deux que je déteste, le communautarisme est dans les deux. Donc,
c'est quoi? Pourquoi?
Parce que je déteste ça, quoi. J'aime pas l'esprit de clan, j'aime pas les gens qui défendent leur chapelle tout le temps. Enfin,
vous ne vous sentez aucune affinité avec ceux qui sont nés dans le même...
Non, aucune affinité. Je veux avoir de mépris pour personne, donc je m'y efforce, mais je n'ai aucune... Je ne comprends pas le communautarisme. Je ne comprends pas l'étroitesse d'esprit, en quoi ça consiste, me tue. De défendre... mais communautarisme dans le sens le plus large... Que les homos défendent les homos, les femmes, les arabes, les juifs me tuent. Je ne sais pas comment vous le dire, ça m'abat. C'est-à-dire que ça me montre à quel point les gens roulent pour eux, ça me montre à quel point ils sont étrangers à l'altruisme, étrangers à tout ce qui peut être simplement le sens de la justice. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, c'est la justice. Ce qui fait que si le mec soit arabe, noir, petit, ou que ce soit une femme, une vieille, moche ou belle, je lui donne ce que je lui dois. Voilà. Et donc, si c'est une femme qui se fait emmerder, je défends les femmes. Si c'est un arabe, je défends les arabes. C'est pour ça que je ne comprends absolument pas le communautarisme. Je ne comprends pas ce que veut dire gauche caviar, ce qui veut dire exactement la même chose. C'est la même chose, c'est la même bêtise, c'est la même médiocrité. La gauche caviar, ça signifie que quand on est riche, on n'a pas le droit d'être de gauche. On n'a pas de valeur quand on a du pognon, c'est ça que ça veut dire. Et que forcément, si on aime l'argent et que si on se promène en bagnole, il se trouve que j'en ai pas. Et donc, ça y est, on est à gauche caviar, on n'a pas le droit d'être de gauche si on a de l'argent. Vous comprenez, c'est la même chose, on n'a pas le droit de défendre... Donc il faut défendre sa chapelle, son clan tout le temps. Mais vous m'avez fait partir, il faut que je m'arrête.
Non, vous pouvez continuer, Jean-Pierre Bacri, c'est votre émission.
Bon,
qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être de gauche aujourd'hui?
Bah ça,
la justice, c'est lutter contre la justice.
La justice. Moi, la fraternité, je m'en fous. Je sais qu'on n'est pas frères. Personne. De toute façon, les frères se déchirent. Ça s'aime pas souvent. Donc, c'est idiot. Moi, je suis pas pour aimer qu'on s'aime les uns les autres. Ne nous aimons pas. Filons-nous du respect de la justice. Et franchement, moi, ça me va largement comme cadeau. Donc,
vous pensiez déjà ça quand vous étiez canois?
Non, je me pétris au fur et à mesure. Quand j'étais canois, je pensais pas grand-chose. Je pensais un peu rien.
C'est vrai?
Ben non, j'étais. Je faisais le sport du coin, c'est-à-dire j'étais chambreur, je m'occupais de rien, je regardais des gonzesses. Voilà.
Comment peut-on renoncer à ça? Qu'est-ce qui fait que. Parce que vous me dites, c'est monter à Paris, ça me paraît.
Ben on renonce.
On peut faire la même chose à Paris, je veux dire, vous voyez, c'est ben, pas.
Oui, je sais bien, mais moi je renonce parce que je m'emmerde surtout. C'est pas parce qu'à un moment, je me dis, c'est pas ma vie, je m'ennuie, donc je change de crèmerie, quoi.
Vous allez jouer dans Mes meilleurs copains, le rôle d'un homosexuel, et vous allez le jouer. Exactement comme vous auriez joué un hétérosexuel dans vos
souvenirs. Exactement.
Hein, vous ne cédez en rien.
En rien.
au fait que ce type est homosexuel. Ouais. Ça veut dire que pour vous, un homosexuel, c'est exactement comme un hétérosexuel.
Bah oui, voilà. Sinon, qu'il a apparemment il regarde des choses que je regarde pas, mais.
Et ça ne se voit nulle part, le fait qu'il regarde ce que vous ne regardez pas.
Bah ça peut se voir, mais bah, voilà, à un moment, je vois un type dans le film en train de prendre une douche, et si j'ai bien joué le truc, ça me fait quelque chose.
Oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là. Mais
je fais un grand tour en vélo à cause de ça, d'ailleurs.
Personne sur le plateau ne s'est étonné. C'est vous qui aviez décidé que cet homosexuel serait exactement comme s'il était hétérosexuel.
Bah oui, parce que moi, en général, je m'approprie les rôles. Et puis, alors, je me vois même pas jouer une folle. Et puis, je trouve que c'est une espèce de mépris déguisé de jouer ça en folle. Un PD, c'est forcément. Oh, bah, dis donc. Ça m'amusait vraiment pas de faire ça. Ça m'aurait ennuyé, même. Puis, je connais plein d'homosexuels qui sont comme vous et moi. Je connais pas vos orientations.
Non, d'ailleurs, je vous les dirai pas, on sait jamais. Quel souvenir gardez-vous du tournage de Mes meilleurs copains, qui est un film qui a pas du tout marché quand il est sorti, mais qui est devenu un film maintenant récurrent à la télévision, que tout le monde adore.
Ils aiment bien.
Avec Gérard Lanvin, Christian Clavier,
Daroussin.
C'est presque la naissance de. Ce sera le futur casting de films que vous allez faire, aussi bien avec Lanvin qu'avec Daroussin. C'est peut-être là que vous les avez rencontrés.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé Daroussin. Je vais me faire un super jus avec ses super fruits.
Et sur le tournage, se régnait la même ambiance qu'on peut imaginer?
Alors, pas vraiment.
Ah donc?
Non.
Comme quoi, hein?
Il y avait un peu de clan. Je vais pas rentrer dans les détails, évidemment, parce que c'est pas bien. Mais non, c'était pas. Et pour moi, ça a été encore moins bien comme ambiance, parce que j'ai eu une relation un peu difficile avec Poiré.
Qui était le réalisateur.
Le réalisateur, mais que par ailleurs, j'aime beaucoup, et que j'ai aucune rancœur, ni rien. Mais d'autant plus qu'il avait plus ou moins raison. Et c'est marrant, c'est parce que ça a trait, d'ailleurs, c'est marrant ça, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la folle, ça, c'est qu'il a pointé un jour, un peu trop fort pour moi, et trop à haute voix, c'est pour ça que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, ce jour-là, mais il a pointé une insuffisance de ma part comme acteur, et qui, avec le recul, je me suis aperçu que c'était archivré, quoi.
C'était quoi cette insuffisance?
Eh ben justement, ça a un peu rapport, c'est que j'étais censé, c'était une scène muette, et j'étais censé raconter aux copains à qui je servais du pinard, tout ça, j'étais censé leur raconter ma vie à l'époque où j'étais danseur au Lido, ou serveur au Lido. En tout cas, il était question d'être un peu extraverti, de lever une jambe,
homosexuel, quoi.
Voilà, c'est ça, de décrire cette vie que j'avais eue avant. C'était muet, c'était pris de loin, c'était une grande tablée comme ça, devant une villa, quoi. Et j'ai fait mon truc, et j'étais un peu inhibé, je l'ai pas très bien joué, enfin, j'ai fait le maximum, mais j'étais pas bien ce jour-là, j'étais traqueur, parce que c'était assez. Ouais, j'étais tendu, j'ai pas su le faire, je l'ai pas. Et il s'en est affecté, ce qui est normal.
Et vous l'avez mal pris?
Non, c'est lui qui l'a mal pris, moi je l'ai mal pris qu'il l'ait mal pris, enfin, je l'ai mal pris qu'il le prenne sur un ton trop haut pour moi. Donc je lui ai dit, mais n'empêche que dans le fond, enfin, pour le fond, il avait raison. Ça arrive de se rater, d'être insuffisant.
Est-ce que vous pouvez vous emporter sur un plateau de tournage, Jean-Pierre Bacri? On vous a vu vous emporter dans des émissions de télévision, à des cérémonies des Césars.
Oui, c'est à l'époque où j'avais pas compris ce que je faisais.
Ah bon? Maintenant, vous ne vous emporteriez plus?
Non, et puis c'est surtout que j'y vais plus. Donc j'ai peu de chance de m'emporter. Non, c'est parce que j'ai pas à leur faire de l'audience. C'est pas mon métier d'être animateur, donc je vois pas pourquoi j'irais les aider en faisant l'imbécile. Tout ça pour être récupéré et archi-commenté après, et zappingué, etc. on peut y voir un intérêt au départ quand on veut tout le temps être vu, tout le temps partout. Et puis après, ben, je vous dis, on change, quoi.
Alors revenons sur le plateau de tournage. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement obéissant, vous écoutez le réalisateur ou la réalisatrice.
Ben oui, je joue le jeu, bien sûr. Oui.
Et là, vous ne vous emportez jamais.
Jamais, enfin, à moins que le type fasse exprès pour que je m'emporte. Enfin, je veux dire, si on me parle mal, oui. Mais comme c'est rare qu'on vous parle mal, donc dans la vie.
C'est rare qu'on vous parle mal dans la vie quand on est célèbre. Sur un plateau de cinéma, on peut vous parler mal par ailleurs.
Oui,
non,
bien sûr. Je veux dire, en tout cas, quand on vous parle mal, bah, vous réglez votre histoire. Mais autrement, il n'y a aucune raison de ne pas être doux.
On retrouve Jean-Pierre Bacri sur Europe 1 il y a 10 ans, juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Jean-Pierre Bacri, vous allez faire un triomphe avec Cuisine et Dépendance, une pièce coécrite avec Agnès Jaoui, une pièce qui a connu un très grand succès au théâtre, qui connaîtra un bon succès au cinéma. Ensuite, il y aura Un air de famille. Et puis, tous les films réalisés par Agnès Jaoui, Le goût des autres, Comme une image et Parlez-moi de la pluie. Tous ces textes, parce qu'au départ, ce sont des textes, tournent autour de la domination, des rapports de pouvoir, des rapports de soumission, d'humiliation. Francis Weber a ça aussi, d'ailleurs. J'ai remarqué dans tous les films de Francis Weber, au départ, il y a des histoires de domination. Alors lui m'a expliqué que ça venait de son physique. Vous, ça vient d'où?
Oui, enfin, je dirais pas dans Comme une image, on a beaucoup traité le truc maître-esclave.
Oui, c'est un rapport de domination.
La servitude volontaire, surtout. Mais autrement, on parle de la société, enfin, on parle on parle des apparences aussi, on parle des préjugés, comment les gens, par leur culture, se font mener par le bout du nez, comment ils rentrent dans des chemins faits d'avance... C'est ça qui nous intéresse, c'est les idées toutes faites, comment quelqu'un peut passer toute une vie sans une idée personnelle. Vous voyez, c'est fascinant. Et je me mets pas hors du lot. Hein.
D'après ce que vous aviez l'air de dire, quand vous étiez cadois, vous étiez peut-être comme ça, c'est ça
voilà,
que vous aviez dit?
Oui, je pense que j'étais en pilote automatique sans m'en apercevoir. Je faisais ce qu'il était bon de faire, je disais ce qu'il était bon de dire, je racontais la blague qui marchait à cette époque-là. J'étais pour qui il fallait être pour et contre qui il fallait être contre. Voilà.
Alors, il y a quand même, moi j'insiste sur les rapports de domination, parce que dans toutes ces pièces et ces films, il y a aussi, il n'y a pas seulement la servitude volontaire, l'esclave et le maître de Comme une image, il y a aussi les rapports de domination du patron sur les autres ou du père sur sa fille.
Oui, c'est vrai qu'on est...
Il y a tout le temps, il y a ça.
Alors, dans le sens archi-large, parce que c'est un truc qui nous fascine, Agnès et moi, ça c'est sûr. C'est la façon dont un individu qui a un pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit de vous laisser rentrer dans un truc de métro, ou que ce soit de vous servir à la FNAC, ou que ce soit d'être votre patron, enfin, sitôt qu'un individu a une once de pouvoir, ça nous fascine de voir comment il s'en sert, et pourquoi il s'en sert toujours, pourquoi c'est mon droit, et donc je l'exerce. Ça nous fascine. Et celui qui ne va pas l'exercer, qui va être convivial, cordial et respectueux avec vous, il a une autre façon d'exercer ce pouvoir. Mais ça nous fascine de voir ça. Donc à chaque fois qu'on est en face de ça, on a envie de le traiter, quoi.
Comment vivez-vous ? Vous évoluez dans un milieu, le cinéma, qui est un milieu extrêmement hiérarchisé. D'autant plus hiérarchisé que la hiérarchie n'est pas codée, elle n'est pas inscrite, au générique, mais c'est tout. Et même là, elle n'est pas aussi évidente qu'elle... Et pourtant, elle est évidente pour tous les gens qui travaillent dans le cinéma, qui est par ailleurs un milieu où tout le monde se tutoie, mais où on peut être cruel, où on est cruel
la plupart du temps,
injustices sont parfois criantes.
Oui, c'est une société comme une autre, oui.
C'est pas une société pire que les autres,
Pire non. Non. Il faut ne pas avoir connu les autres. Bon, non, c'est pas pire du tout. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, on a du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, la plupart des gens sont tentés de s'en servir. Et de dire, je suis au-dessus de toi. Alors évidemment, ils peuvent pas le dire comme ça, parce que c'est quand on a 4 ans qu'on dit ça dans les squares. Mais ce petit enfant est toujours vivace. Et il a toujours envie de dire « Moi, j'en ai plus que toi ».
Et vous,
il le dit à sa façon, mais tu n'as pas apporté les formulaires aux questions. Et ça veut dire « T'aurais dû les apporter, c'est moi qui suis le chef ».
Et vous n'avez jamais la tentation, si vous avez la tentation, d'exercer vous aussi votre pouvoir? Vous vous réprimez ou parfois ça vous échappe?
Je me réprime parce que moi, ça m'amuse d'être juste. Donc je me réprime, mais il m'arrive d'être un crétin comme tous mes congénères.
Comment avez-vous vécu la célébrité? Parce que alors là, si quelque chose crée des injustices, c'est bien la célébrité. Ah oui, tout le monde veut devenir célèbre aujourd'hui, donc.
Bah, il faut voir ce que ça vous apporte aussi. Vous passez devant au restaurant. À côté de ça, on va marcher sur votre épouse qui n'est pas connue. On va, mais tout en vous faisant des ronds de jambes, c'est extraordinaire. La célébrité, ça fait connaître l'humanité aussi.
Pas en bien.
Bah, pas en bien, et puis parfois en bien. Enfin, c'est rare d'encontrer. De toute façon, c'est rare de rencontrer des gens qui nous vont. Vous voyez, on a 4-5 amis dans une vie, donc ça prouve bien que c'est pas facile.
Pas plus que ça, vous pensez?
Je sais pas, des amis sincères à qui vous parlez, vous me direz, vous, combien vous en avez?
Vous allez avoir 60 ans, Jean-Pierre Bacri. Qu'est-ce que ça change?
Le chiffre du début.
C'est tout?
Bah oui, c'est-à-dire que, de toute façon, moi, j'ai fait une croix sur la jeunesse, là. Donc, à partir de 40, on commence à être choqué. Quand on voit le 4, on commence à se dire « Oh merde, quand même, je pourrais avoir un homme de 20 ans, mais c'est dégueulasse le principe de la vie quand même. » Non mais c'est vrai, on est habitué à la jeunesse, quoi. On est jeune. Et on a que ça comme expérience, c'est la jeunesse. Jusqu'à 30, je connais pas l'âge, les limites, mais... Donc on a que cette expérience et tout d'un coup, un beau jour, on est exilé.
Vous vous sentez exilé là?
Bah, c'est-à-dire qu'on est né dans un pays, c'est la jeunesse, quoi. Et puis un jour on vous dit non, toi c'est regarde c'est non mais c'est pas loin, c'est juste là. Non oui mais oui encore voilà c'est là. Eh ben ça Agnès elle dit un jour on nous regarde comme des pigeons et c'est vrai c'est extraordinaire cette expérience quand même. Donc voilà, à part ça me fait rien du tout.
Les premiers films dans lesquels on vous voit, vous avez des cheveux noirs, corbeaux. Et puis à un moment, assez vite, me semble-t-il...
J'en perds partout.
Oui. Vous êtes devenu dégarni. Et ça a plutôt fait du bien, me semble-t-il, à votre carrière.
Ah bon?
Vous n'avez pas cette impression? C'est plutôt dégarni que vous êtes devenu un acteur connu, reconnu et apprécié.
J'aurais été regarni que j'aurais quand même...
Ah, pas sûr, allez savoir. Bon, j'ai posé la même question à Michel Piccoli, je lui ai fait remarquer que tant qu'il avait des cheveux, il n'avait pas de succès.
Il n'a pas tourné?
Non. Enfin, moi.
Je sais pas, je suis peut-être un bon. Ouais, peut-être, je suis peut-être un des bons chauves, en fait.
Ça vous a pas embêté, tout à coup, d'être un chauve? Parce que ça non, peut aussi que... limiter les rôles. Hein,
non, parce que ça m'est arrivé jeune. Ça m'est arrivé jeune, et la première fois, c'était. J'avais 27-28. Et il y avait une coiffeuse qui était la copine d'un copain, que je connaissais pas, c'est une nouvelle copine à lui. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Elle m'a regardé comme ça, j'étais bourré de cheveux, j'étais comme vous là. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu vas perdre tes cheveux toi. C'était comme si on me disait, tu vas perdre autre chose. Bon. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, mais je vois, t'as des golfs là qui commencent, tu vas perdre tes cheveux. Et je suis resté con, et elle avait raison.
Voilà, c'était Jean-Pierre Bacri en février 2011. Il va me manquer. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez rendez-vous après le flash avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien?
Juste un mot, ça fait du bien d'entendre Jean-Pierre Bacri à votre micro, Frédéric. Et puis en plus, l'entendre parler de calvitie, ça me parle encore plus. Le programme des grandes voix dans un instant avec Gérard Carrérou, avec Charles Villeneuve et avec Michel Cotaille. On va parler du hashtag MeToo Inceste. 130 000 occurrences déjà, la parole se libère. On parlera également du troisième confinement qui semble inéluctable et puis de Biden à la Maison-Blanche. Quel impact pour la France? Eh bien, on va en parler.
Bonne émission, Sébastien.